Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que l'on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes, pour vous aider à trouver votre chemin et surtout, à oser. Poursuivre ses rêves, on m'en parlait tout à l'heure, mais pas t'arrêter à ce que les gens peuvent nous dire. C'est vrai que moi, quand j'étais en cours, on me disait « tu peux pas faire Koh-Lanta, tu peux pas faire les cours et tu peux pas faire ton sport, faut que tu choisisses, tu peux pas tout faire ». Et au final, je les ai pas écoutés. Moi, je pensais que je pouvais y arriver, que je pouvais cumuler tout, même si c'était difficile. Et finalement, aujourd'hui, j'ai réussi à tout faire. Donc, faut pas écouter ce que même les adultes, les proches, les parents peuvent... Si on a quelque chose en tête, faut foncer, faut essayer de le faire.
Candice Boisson a mis un premier pied dans le sport à l'âge de 3 ans avec le judo. Aujourd'hui, elle est quintuple championne de France et vice-championne d'Europe et fait partie des meilleures au monde en wakeboard. Au-delà de tout ça, vous connaissez peut-être Candice comme l'une des plus jeunes participantes à l'émission Koh-Lanta. Je suis cette émission depuis toute petite et Candice, ça a un peu été mon coup de cœur. Complète sur les épreuves, humaine, douce et naturelle. Alors c'est auprès d'elle que j'ai voulu aller fouiller les dessous de Koh-Lanta. Elle nous parle des sélections pour participer à cette émission, de sa préparation, de quelques petites anecdotes sur le camp et de comment elle a vécu son après Koh-Lanta. On évoque aussi son histoire d'amour avec Jérémy qu'elle a rencontré sur Koh-Lanta. Dans cet épisode, on parle donc surtout de ses deux saisons dans Koh-Lanta, mais pas que. Je mets aussi en lumière l'audacieux parcours de Candice, sa personnalité et ses nouveaux projets pour que vous puissiez la connaître un peu mieux.
Ça tourne ?
Ça tourne,
allez.
C'est parti. Salut Candice !
Coucou !
Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui.
Merci à toi de m'avoir proposé, ça me fait plaisir.
Comment est-ce que tu vas ?
Je vais super bien. Un peu speed en ce moment, mais je vais super bien.
On te connaît sur la télé, dans la fameuse émission Koh-Lanta. Mais comment toi, tu voudrais te présenter personnellement, au-delà de toute cette médiatisation ?
Alors déjà, je suis une fille qui a plein de frères et sœurs. Le côté famille, c'est vraiment ce qui me définit le plus. Après d'être une grande sœur et une petite sœur, je suis aussi une sportive. J'ai fait toujours du sport pendant ma jeunesse. Et j'ai toujours rêvé aussi de faire Koh-Lanta, donc c'est là que j'ai fait... C'est à 18 ans, je me suis inscrite, et après, donc je suis devenue, en plus d'être sportive, une aventurière. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je suis en train de monter mon centre de cryothérapie. Et j'ai lancé ma marque de soins dermatologiques et sport.
Ok, ouais. Et c'est quoi la cryothérapie ? Parce que moi, la première, quand j'ai commencé à me renseigner, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ?
Alors la cryothérapie, en fait, c'est soigner par le froid. Donc en fait, on rentre dans un caisson qui descend de moins 110 à moins 180 degrés à peu près. On reste 3 minutes dedans et ça va soigner plein de pathologies différentes. Donc au départ, c'est connu pour les sportifs parce que ça permet de récupérer plus facilement et puis de se préparer à l'effort aussi. Mais après, pour les personnes qui sont insomniaques ou qui font des burn-out, qui ont des problèmes parce qu'ils viennent de se faire opérer, enfin pour ça marche vraiment pour plein de pathologies différentes.
Trop cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance ? À côté des compétitions de wakeboard, qu'est-ce que tu aimais faire et à quoi ressemblaient tes journées ?
Alors, à partir de quel âge ? Je peux commencer de la maternelle.
Allez, on n'a qu'à dire 15 ans.
15 ans, donc ouais. 15 ans, j'étais au lycée et j'étais en sport-études judo. En fait, je faisais du judo depuis que j'avais 3 ans. En fait, moi, on m'avait proposé le sport-études au collège. Okay. Et j'avais pas envie de partir loin de mes proches, partir en internat, ça me disait rien. Et on me l'a reproposé quand je suis rentrée au lycée. Et ma sœur y était déjà aussi en sport-études judo. Du coup, je l'ai suivie. Et voilà, pendant tout mon lycée, donc j'étais sportive de haut niveau en judo. Puis après, je l'ai été en même temps en wakeboard. Et donc, je me suis retrouvée sportive de haut niveau en wakeboard et en judo. Et puis après, en terminale, j'ai dû faire un choix parce que j'arrivais pas à tout cumuler avec en plus le bac. Donc du coup, j'ai arrêté le judo et j'ai continué le wake.
Et après la terminale, qu'est-ce que tu as pris comme études ?
Alors c'est là où ça se complique. En fait, après le bac, je suis allée faire une licence STAPS, donc fac de sport. J'ai fait la première année et ensuite je suis partie en école de psychomotricité. Donc je sais pas si tu connais la psychomotricité.
Je connais, mais tu peux en parler peut-être en deux, trois mots pour ceux qui connaissent pas.
En fait, c'est pour faire simple, c'est ce qui relie le côté motricité, ouais, et le côté psychique. Donc entre kiné et psychologue, enfin c'est un métier qui relie les deux en même temps en fait.
Donc t'as fait un petit swift entre le sport STAPS et la médecine.
Voilà, donc du coup après, donc j'ai fait une première année psychomote que j'ai arrêtée en plein milieu parce que j'ai fait les fameux castings de Koh-Lanta et que au mois de février mars, je me rapprochais de l'échéance et au mois d'avril, début avril, on m'a dit que j'étais prise à Koh-Lanta. Donc du coup, j'ai arrêté mon année. J'avais jamais redoublé, donc ça m'a pas posé tant de problèmes que ça de me dire bon je rate une année. Et du coup, j'ai repris après une deuxième année de psychomote. Sauf que pendant la deuxième année, j'ai été appelée pour faire un deuxième Koh-Lanta. Et étant mordue de l'aventure, j'ai pas pu refuser une nouvelle fois. Sauf que ça n'a pas plu à l'école, parce qu'en plus quand j'allais en cours, je partais aussi en compétition de wakeboard. Donc finalement, même si j'avais les notes qu'il fallait en présentiel, j'étais pas souvent là. L'école m'a proposé de faire chaque année, donc c'est 3 ans de psychomotricité. Ils voulaient que je fasse 3 ans chaque année, soit 9 ans d'études, donc ça me plaisait pas. Donc du coup, je suis repartie en STAPS et j'ai terminé ma licence de sport.
Ok. Et pour revenir à Koh-Lanta, qu'est-ce qui t'a amené à postuler ?
Au départ, j'ai toujours regardé l'émission. Depuis que j'étais toute petite, en fait, j'ai grandi en même temps que l'émission. Et le côté sport et survie m'a toujours fait rêver, quoi. Je rêvais de le faire. Et je me souviens avoir dit un jour à mes parents, un jour, je ferai l'émission. Et puis, dès que j'ai eu 18 ans, je me suis inscrite sans le dire à personne. Et puis, j'avais fait ma candidature au mois de mars. Et ils m'ont rappelé au mois d'octobre. Donc, autant dire que c'était totalement sorti de ma tête. Et finalement, j'ai été prise, quoi.
Donc, il y a des dizaines de milliers de candidatures chaque année. Et quand tu as postulé, est-ce que tu t'es dit, bon, on verra bien, mais franchement, je pense pas du tout être prise. Ou est-ce que tu y croyais et que tu disais, je peux vraiment avoir ma place et ça vaut le coup d'essayer?
En fait, j'y croyais pas tant que ça, donc j'y allais vraiment en nature, quoi. Mais même quand j'avançais dans les étapes de casting, parce que c'est quand même 6 mois de casting, chaque fois, j'étais pas dans l'esprit « je suis prise » parce que j'avais pas envie d'être déçue. Donc à chaque fois, je savais que les places étaient chères et je me disais « bon, là, c'est passé cette fois-ci, mais on va attendre ». Mais j'étais surexcitée, hein. J'attendais une fois qu'on a le premier appel. Après, ils doivent nous rappeler pour nous dire si on va au casting filmé ou pas. Et je sais que j'avais mon téléphone toujours à côté de moi. Dès que quelqu'un m'appelait, j'étais stressée. Mais en fait, c'était pas Koh-Lanta. Enfin, ça a été vraiment cette période, mais qui finalement était une super période. Mais c'est vrai que sur le coup, quand j'y repense, c'était ultra stressant.
Et en quoi cette aventure a changé ta vie ?
Sur plein de choses. Déjà humainement, quand on se retrouve sur une île, qu'on n'a rien à manger, qu'on se contente du peu qu'on peut avoir. Enfin, on pêche un poisson, on est les plus heureux du monde. Moi, je suis déjà très famille, mais quand on part et qu'on est éloigné de tout le monde, on se rend compte encore plus de l'importance des proches, de l'amour qu'on peut nous donner chaque jour. Donc déjà, là-dessus, vraiment, on permet de se concentrer sur les choses les plus importantes. Et puis après, sur l'après Koh-Lanta, ça a changé ma vie, ouais, comme tu l'as dit, parce qu'il y a eu les fameux réseaux sociaux. Et j'ai eu une notoriété qui est née après cette aventure télévisée. Et du coup, ça m'a permis d'avoir plein de choses, notamment grâce à Instagram, où j'ai pu voyager, j'ai pu faire plein de choses grâce soit à l'argent que je gagnais grâce à Instagram, soit parce que j'étais invitée à des événements parce que les gens m'avaient regardée à la télé, ou pour le coup le côté médiatique m'a beaucoup aidée, oui. Enfin m'a changé la vie.
Et est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais vivre de ce côté médiatique sans monter ce que tu es en train de monter à côté ?
Aujourd'hui, si je monte mon centre de cryothérapie, c'est clairement grâce à Instagram. Parce que en même temps que je continuais mes études, j'ai pu gagner de l'argent en faisant des partenariats sur Instagram. Et je pourrais clairement faire que ça. Après, je me demande, moi, toujours, je me dis, si Instagram ferme demain, je me retrouve sans rien. Enfin, donc, du coup, je suis un peu prévoyante. Et puis, j'ai eu cette idée de créer mon centre de cryo. Puis, je m'y suis attachée. Ça n'a pas été facile. Mais voilà, 2 ans après, il voit le jour et je suis la plus heureuse. Donc, tant mieux.
Et tu as fait 2 Koh-Lanta.
Oui.
Donc, le deuxième, comment ça se passe? Est-ce que tu as trouvé ça plus simple, plus dur? Comment tu l'as vécu?
C'est tout à fait différent. Le premier Koh-Lanta, vraiment, tout le monde y va pour l'aventure, la découverte, etc. Et dans le deuxième, moi, j'y allais encore dans cet esprit-là d'aventure, d'aventure humaine avant tout. Et en fait, l'ambiance n'était pas du tout la même parce que déjà, on se connaît entre candidats. Il y a forcément des affinités qui sont déjà créées avant de partir sur le jeu. Et les aventuriers n'y vont pas pour l'aventure, ils y vont vraiment pour la gagne. Donc j'ai vraiment moins apprécié l'esprit humain dans le deuxième que dans le premier.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui souhaitent candidater aujourd'hui ?
Déjà, faut savoir que c'est une aventure qui va être extrêmement difficile, mais c'est l'aventure la plus belle, je pense, que vous pouvez que vous pourriez vivre si vous avez la chance d'être sélectionné, quoi. Pour les castings, c'est de rester naturel, le plus naturel possible, parce que déjà en face de soi, on a des pros, donc ça sert à rien de vouloir de jouer de jeu, ça sert à rien de vouloir s'inventer une personnalité grande gueule, j'ai envie de dire. Enfin, moi, la première, je suis pas quelqu'un de grande gueule et je me suis décrit vraiment comme j'étais et ça a plu. En fait, ils s'attendent pas à avoir des personnes qui rentrent dans des cases. D'habitude, j'ai des bons conseils, là, ils sortent.
Je vais trop poser ces questions.
C'est ça. Non, mais déjà aussi, on n'y pense pas souvent, mais c'est bien d'écrire la lettre de façon manuscrite. Parce que forcément, c'est des pros et quand, je sais pas, ils arrivent peut-être à avoir des traits de personnalité dans l'écriture. Enfin, je pense qu'il faut écrire de façon manuscrite. Quand on, par exemple, il faut joindre aussi des photos. Donc, si vous êtes quelqu'un de rigolo, faut mettre des photos rigolotes. Enfin, faut vraiment essayer de ressortir les traits de personnalité qui vous définissent. Donc, je sais pas si t'as envie de candidater, demande à tes proches des traits de caractère qui te définissent, positifs et négatifs. Hein, ça peut être les deux. Et essaye de les faire ressortir dans ta lettre le maximum possible à travers tes photos et à travers ton texte.
Et sur l'aventure, quel conseil tu aimerais donner à ceux qui la vivent?
D'être soi-même, hein, pour rien regretter, tout simplement. Après, ça dépend de, enfin, si on voit de façon humain, enfin, moi, je sais que j'ai été comme j'ai été, la première fois, je suis allée loin, donc je pense que ça, en fait, ça dépend. Si on voit comme un jeu, je dirais, faut être sportif, mais pas trop, faut être un brin de stratège, faut s'entendre avec tout le monde. En fait, il y a vraiment l'aspect sur le camp, donc ça va être survie et s'entendre avec les autres. L'aspect sportif, pour gagner des immunités et pouvoir être immunisé. Et l'aspect stratège, parce que faut savoir se faufiler. Donc il faut avoir, je pense, un peu des trois. Après, pour rien regretter, faut être soi-même et rester dans, et garder ses valeurs, quoi.
Est-ce que tu trouves, objectivement, que la façon dont Koh-Lanta est présentée aujourd'hui a changé par rapport à avant, en moins bien, par exemple? Je sais qu'il y a beaucoup de critiques de gens qui disent oui, c'est beaucoup de la télé-réalité maintenant, c'est plus aussi nature que ça l'était avant. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
En fait, déjà, il faut savoir que un épisode, c'est 3 jours sur place. Donc, en fait, le montage montre ce qu'il en veut de montrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on voit moins le côté survie, mais plus le côté vie sur le camp, donc tout ce qui va être en brouille, par exemple. Après, c'est qu'une question de montage. Enfin, moi qui l'ai vécu, je sais que c'est loin d'être une télé-réalité. Mais c'est vrai qu'au montage, on peut voir plus des disputes. Après, faut savoir que c'est des disputes, elles sont réelles. Hein. Si on met 20 personnes qui se connaissent pas sur une île et qu'on meurt de faim, qu'on mange mal, que nos proches nous manquent, forcément, à un moment donné, ça va fighter. Mais c'est vrai que le côté télé-réalité, ouais, je sais pas trop. Après, ça vient des castings aussi, mais bon, là, quand on voit les aventuriers aussi qu'il y avait, il y avait des super sportifs, et cette année, je trouvais que ça faisait pas trop télé-réalité. Voilà.
C'est quoi que tu as trouvé le plus dur, toi?
Alors, les deux fois, c'était différent. La première, c'était la nourriture, bien sûr, et le manque des proches, parce qu'en fait, on part 50 jours et on a 0 nouvelles, mais on est dans un environnement qui est hyper pesant. Donc j'avais l'impression qu'en fait tout le monde était en train de m'oublier, que j'étais en train de mourir sur une plage et que tout le monde m'oubliait, alors que c'était vraiment pas le cas. Enfin, je le savais au fond de moi, mais c'était vraiment le sentiment que j'avais.
Donc un jour, t'as l'impression que c'est 4 jours.
Ah bah c'est, en fait, les journées, elles sont tellement longues, ouais. Parce qu'une fois qu'on sort du jeu, après, il n'y a rien à faire sur la plage. Enfin, une fois qu'on a fait la cabane, après manger, on n'a même plus la force d'aller pêcher, enfin, d'aller chercher, c'est, tout devient dur. Donc, les journées sont super longues. Et après, dans le deuxième, justement, je dirais que le plus dur, ça a été les autres, parce que le côté faim, c'est toujours aussi dur, mais on s'était habitué. Le côté manque des proches, pour le coup, je l'ai mieux vécu. Mais les autres, ça a été l'enfer, parce que moi, il y avait sans arrêt des engueulades, il y avait des clans. Moi, en plus, j'étais dans une équipe où on avait tout perdu et j'étais la dernière des jaunes. Donc, du coup, j'étais un peu seule contre tous. Donc, ouais, l'environnement, enfin, les autres, c'était plus pesant, ouais.
Et au cours de tes deux saisons, est-ce que tu as trouvé que la télé avait bien retransmis ce que tu avais vécu et l'ambiance que toi, tu as ressentie sur le camp?
Alors oui, ça reflète complètement ce qu'on voit à la télé. Après, il y a forcément des moments où j'aimerais que ce soit montré et puis que ça l'est pas. Comme par exemple, je sais qu'à un moment donné, j'avais gagné une épreuve et que je l'avais dédiée à mon papa. Une autre, je l'avais dédiée à ma maman. Enfin, et c'est des moments qui sont pas sortis, donc j'avais un peu les boules. Pareil, le deuxième, j'avais fait une super table. Dans le premier, j'avais participé à la cabane, mais j'avais rien fait moi toute seule. Et le deuxième, j'avais fait une table qui était trop trop bien. Et en fait, c'est pas du tout montré quand je l'ai monté. On a juste vu qu'il y avait une table, mais à aucun moment on m'a vu la construire. Donc j'avais trop les boules. Mais forcément, oui, il y a plein de choses. Comme les épreuves, elles sont vraiment très très dures. Et quand on les voit à la télé, on se dit ah bah mince, on a l'impression que ça se fait comme ça, alors qu'on a passé en fait 3 heures à essayer de mettre une boule dans un pic. Enfin, ouais, c'est vraiment super. Enfin, ça ressemble, mais encore une fois, un épisode, c'est le résumé 3 jours, donc on peut pas tout voir.
Et tu t'étais beaucoup entraînée avant de partir?
Alors, le premier, faut savoir que j'étais sportive de haut niveau. Donc, et puis, encore une fois, je faisais ma préparation, je faisais les castings, mais dans ma tête, c'était impossible que je participe au jeu. Donc, je suis venue avec mes acquis, on va dire, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et là, j'étais en pleine période compète, donc j'étais déjà en forme. Et du coup, le deuxième, je me suis plus entraînée spécifiquement pour Koh Lanta. Donc, j'ai plus fait de l'équilibre, enfin, marché sur des bambous, des trucs comme ça. Je me suis plus entraînée spécifiquement pour Koh Lanta.
Ok.
Mais dans les deux cas, je m'étais préparée physiquement, oui. Oui.
Tu as rencontré ton amoureux, Jérémy, sur Koh Lanta. Est-ce que votre aventure avait commencé sur le camp, déjà, ou à votre retour?
Alors, en fait, c'est vrai qu'elle revient souvent, cette question, mais sur l'île, bizarrement, on n'avait aucune attirance l'un pour l'autre, quoi.
Zéro.
En fait, on est vraiment en mode survie. Ouais. Mais vraiment rien du tout. Pareil, dans ma saison, il y a Yesta et Benoît qui aujourd'hui sont mariés. Mais pareil, sur l'île, il y avait aucun, c'est impressionnant. Déjà, moi, j'étais pas dans l'équipe de Jérémy. Donc, on s'est vu, on s'est bien entendu, mais jamais je m'étais dit, ah, tiens, il est mignon, le petit G. et non, c'est en rentrant, en fait, en rentrant, quand on est retourné, on avait repris tous nos kilos, qu'on s'est revus, pour l'avant-première de Koh-Lanta. Ouais. En fait, à chaque fois, on voit le premier épisode tous ensemble à Paris, dans la tour TF1. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah, tiens, il est mignon. Mais sinon, sur l'île, non, pas du tout. Enfin, si, je le trouvais beau, mais j'avais pas d'arrière-pensée,
quoi. Oui, je vois. Et comment vous avez géré la médiatisation de votre couple? Parce qu'au début, vous le cachiez un petit peu?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que après, on a été pris pour le deuxième Koh-Lanta. Ouais. Et on voulait pas du tout qu'à la télé, ça fasse... zoomer
de
avec des les feux de l'amour, exactement. Donc en fait, on avait dit à la production qu'on n'était pas ensemble. Bon, je pense qu'ils s'en doutaient un peu, parce que quand on allait chercher l'eau tous les deux, qu'on partait à deux, on entendait les caméras courir derrière en essayant de choper un bisou, sauf qu'en fait on allait juste chercher de l'eau, quoi. Donc c'était rigolo, mais sinon non. En fait, au départ, on disait pas qu'on était ensemble, tout simplement. Puis après, une fois que le deuxième Koh-Lanta est passé à la télé, du coup, là, on l'a dit, parce que ça servait à rien, tous les gens le savaient plus ou moins, quoi. Mais voilà, au moins pour notre diffusion, c'était en mode aventurier et pas en mode couple.
Et t'as parlé de caméras, ça m'a donné une petite question.
Dis-moi.
On a l'impression qu'il y a plein de caméras, parce qu'il y a des points de vue dans tous les sens. Il y en a combien, en fait?
Alors, sur le camp, il y en a pas tant que ça. Il doit y avoir 2-3 caméras à peu près. Mais en fait, ils sont par groupe de 3. En fait, il y a un caméraman, un preneur de son et une journaliste. Et en fait, il va avoir 1 ou 2 équipes, et les jours de conseil, peut-être 3 équipes, donc ça fait 9 personnes. Mais après, par contre, sur les jeux, il y en a un paquet, et on les voit pas forcément, mais sur les jeux, il y en a beaucoup. Mais sur le camp, non, oui, il y a 2-3 équipes, quoi.
Et au début, Est-ce que tu as directement réussi à faire abstraction aux caméras ou au début ça te gênait un petit peu?
Alors au départ, non, limite je les fuyais parce que en fait dès que les caméras étaient là, bah j'arrêtais de parler parce que j'étais mal à l'aise. Et après en fait on s'habitue, on les oublie pas, mais on s'habitue. Puis finalement c'est les seules personnes un peu, enfin c'est les seules personnes qu'on voit quoi, à part les gens du camp. Donc donc même s'ils ont pas le droit de nous parler, etc., ça fait toujours une petite compagnie et finalement on s'habitue quoi.
Ils vous parlent jamais?
En fait, ils ont pas le droit, ouais, de nous parler. Enfin, ils sont là en mode, vous vivez votre aventure et on n'impacte pas. C'est juste que c'est filmé, mais ils ont pas le droit de nous parler ou quoi que ce soit.
Et ils dorment aussi sur l'île?
Bah alors eux, ils ont un camp plus loin. Après, il y a toujours des équipes, donc elles tournent. Ouais. Et il y en a qui filment la nuit. Je me souviens qu'une fois, je dormais et j'ouvre les yeux et je voyais un petit point rouge au-dessus de ma tête. Et en fait, c'était le preneur de son parce que le soir, il y en a qui parlent stratégie. Et du coup, bah, ils étaient là, ils entendaient tout ce qu'on disait pour voir bah, si on parlait stratégie, justement.
Ah non.
Alors qu'en fait, je dormais juste.
Et quels sont tes projets aujourd'hui?
Alors là, du coup, à court terme, enfin, j'ouvre au mois de septembre le centre de cryothérapie et je lance en même temps ma marque Apicure. Donc voilà, ça, c'est les projets à court terme. Je pense que je vais être pas mal prise quand même malgré tout parce que je suis toute seule dans mon centre à gérer. Et puis après, bah toujours faire des voyages avec mon chéri aussi, parce que j'adore voyager, c'est ce qui me sort. Puis c'est là où on passe du temps ensemble et on adore voyager tous les deux. Et puis voilà. Après, j'aimerais bien m'acheter un petit appart, mais c'est quand j'aurai des sous, donc pas pour maintenant.
Si on te proposait un troisième Koh-Lanta, tu dirais oui?
Je pars de suite.
C'est vrai.
Mais en fait, ouais, bizarrement, même si c'est hyper dur, c'est vraiment une aventure très difficile. Je pense que la plus difficile qu'on puisse vivre. Mais bizarrement, dès qu'on rentre et qu'on retrouve notre confort, on retient que le positif et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et c'est vraiment le cas de tous les aventuriers qui ont participé à Koh-Lanta depuis la première saison en 2001, quoi. Enfin, je connais personne qui me dit qu'il a pas envie de repartir. Donc, ouais, forcément, si on me repropose, ouais, j'ai toujours les poteaux en tête que j'ai jamais fait. Et puis, ouais, même si j'avais déjà fait les poteaux, je pense que j'aurais quand même eu envie d'y retourner. Et ouais, c'est une aventure que je pourrais la refaire 6 fois s'il faut.
Et tu as des nouvelles régulières de ceux qui ont partagé l'aventure avec toi?
Ouais, bah de ma première aventure, je suis en contact avec tout le monde assez régulièrement. Donc après, forcément, plus le temps passe, moins on s'écrit, mais au moins une fois par mois, on s'envoie des messages ou on s'appelle ou quoi que ce soit. Et du deuxième, un peu moins. Enfin, c'est moins tout le monde, mais oui, j'en appelle toujours quelques-uns. Enfin, on s'appelle et puis dès qu'on se revoit, on est toujours content de se revoir parce qu'en fait, à chaque fois, tous les mois de septembre. En fait, tous ceux qui ont fait Koh-Lanta depuis le début, les premières saisons, on se retrouve et on se fait un week-end entre copains, on appelle ça. Copains avec KOH comme Koh-Lanta.
Et comment tu avais vécu ton retour à la vie réelle, entre guillemets? En rentrant de Koh-Lanta, tu t'es pas sentie un petit peu déboussolée en mode, mais qu'est-ce que je viens de dire? C'était un rêve, c'était waouh, ma vie vient de basculer.
Le retour a été compliqué et c'est vrai qu'on n'entend jamais parler du retour. Ouais. Mais moi déjà, 1 ou 2 mois après que je sois rentrée, bah déjà en 15 jours, j'avais repris 17 kilos sur les 12
en
que j'avais sur, en 15 jours. Donc j'avais perdu 12 kilos, mais j'en ai repris 17 en 15 jours. Et puis un mois après mon retour, j'ai commencé à perdre mes cheveux, mais je pense que j'en ai perdu au moins un tiers, si c'est pas plus. Et donc je m'étais retrouvée bah beaucoup plus grosse que je le suis et puis sans cheveux quoi. Enfin c'était vraiment c'était affreux. J'étais vraiment mal dans mon corps et en fait c'est à cause des carences alimentaires qu'on a sur place. Moi mon premier Koh-Lanta j'avais 19 ans et le médecin m'a dit que voilà, j'étais trop jeune pour avoir subi de telles souffrances, on va dire. Et du coup bah mon corps garder toute la nourriture, impossible. Puis j'avais absolument pas envie de faire attention à ce que je mangeais, vu que j'avais passé 42 à rien manger. Et bref, du coup, physiquement, je me sentais mal. Et en fait, dès que Koh-Lanta commençait à être diffusé, je voyais des gens qui me prenaient en photo en métro, dans le métro par exemple, en secret, et qui après, je voyais ça sur Internet où c'était marqué « J'ai croisé Candice ». Puis en fait, c'est là où j'avais des trous j'avais moins de cheveux, je me sentais grosse et je voyais des photos qui me plaisaient pas du tout. Donc ouais, c'était un peu compliqué là-dessus. J'ai mis 1 an avant de me remettre physiquement, on va dire. Et puis après, la diffusion, ça s'est bien passé. Les gens sont toujours très sympas.
Et mis à part le côté physique, mentalement, comment tu l'as vécu, ton retour à la vie réelle?
En fait, ça n'a pas été évident. En fait, quand je suis rentrée, déjà 15 jours après, j'avais mes championnats de France de wakeboard, ouais, qui étaient qualificatifs pour les championnats d'Europe et championnats du monde. Donc du coup, en fait, j'ai pas eu le choix. Quand je suis rentrée, je me suis tout de suite réentraînée, etc. Sauf que j'avais plus de force. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à les gagner. Mais après, du coup, 2 mois après, j'avais mes championnats d'Europe et mes championnats du monde. Et je sais pas comment. Enfin, en fait, j'avais l'esprit ailleurs. En fait, j'étais en Israël et au Mexique et j'étais dégoûtée parce que je loupais le vendredi mon épisode et que je pouvais pas regarder l'épisode. Enfin, du coup, c'est vrai qu'on pensait, je pensais toujours Koh-Lanta, c'était impressionnant. Mais même après l'aspect sport, il a fallu que je me remette dans mes études. Et j'avais pas du tout l'esprit à ça, quoi, pour le coup. Et ça n'a pas été le cas pour, seulement pour moi. Il y en a plein qui, dès qu'ils sont rentrés, ont changé de boulot. Et moi, pour le coup, se remettre dans les cours, c'était pas évident.
Et tes proches, ils ont réagi comment? Ceux qui étaient, par exemple, tes camarades de classe qui t'ont revu revenir après tout ce changement?
Du coup, étant donné que j'avais arrêté mon année en plein milieu, j'étais plus avec les mêmes l'année d'après. Mais je sais que, on me prenait en photo quand j'étais dans l'amphi. On me regardait. Après, forcément, après dans Psychomote, je me suis pas sentie à part. Elles étaient vraiment toutes super gentilles. Oui, il y a beaucoup de filles, c'est pour ça que je dis elles. Mais c'est vrai que quand je suis retournée en STAPS, par contre, je me suis un peu sentie seule au monde, parce que j'avais fait 2 Koh-Lanta, c'était en pleine diffusion. En plus, vu que je suis sportive de haut niveau, en fait, j'avais pas besoin d'aller en cours, forcément, vu que j'allais en compète. Donc, en fait, je venais là que pour les TD, mais du coup, je connaissais pas grand chose. Après, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais c'est vrai que, j'étais un peu seule au monde.
Et à côté, donc, du sport et là, de tous tes beaux projets, est-ce que t'as des passions culturelles, de la lecture ou d'autres?
J'adore. En ce moment, je suis à fond dans le yoga. En fait, j'ai toujours voulu faire du yoga. Mais avec le wakeboard, les cours, etc., j'avais jamais pris le temps d'en faire. Et maintenant, j'essaye de me caler tous les matins ou le soir quand j'ai pas le temps de faire un peu de yoga et j'adore. Vraiment, je sais pas pourquoi j'en ai pas fait plus tôt alors que ça m'a toujours attirée.
T'as pris des vrais cours ou tu apprends sur Internet?
Alors, j'ai déjà commencé en cours dans un petit club à Vienne, là, pas loin de chez moi. Et puis maintenant j'ai une application sur le téléphone où j'ai accès à plein de vidéos et du coup j'en fais toute seule chez moi.
Trop bien. Bon, pour finir, une petite question philosophique. C'est quoi la vie pour toi?
La vie, c'est l'aventure. Non, c'est se dépasser, sortir de sa zone de confort et vivre, quoi. Prendre des risques si on ne prend pas de risques, on peut avoir des regrets, il ne faut surtout pas en avoir.
Donc du coup, quel conseil tu voudrais donner aux jeunes?
De poursuivre ses rêves, on en parlait tout à l'heure, mais pas t'arrêter à ce que les gens peuvent nous dire. C'est vrai que moi, quand j'étais en cours, on me disait tu peux pas faire Koh-Lanta, tu peux pas faire les cours et tu peux pas faire ton sport, faut que tu choisisses, tu peux pas tout faire. Et au final, je les ai pas écoutés. Moi, je pensais que je pouvais y arriver, que je pouvais cumuler tout, même si c'était difficile. Et finalement, aujourd'hui, j'ai réussi à tout faire. Donc, faut pas écouter ce que même les adultes, les proches, les parents peuvent. Si on a quelque chose en tête, faut foncer, il faut essayer de le faire.
Trop bien. Merci beaucoup, Candice.
Pas de problème, merci à toi.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils, j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment 2 minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles.